France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richet et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre. À la technique ce matin, c'est Dalia. Troisième épisode de notre série sur les nouveaux bastions du djihadisme, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Ces groupes sont aujourd'hui pour la plupart dans des logiques nationales, s'adaptent aux contextes locaux et tentent de déstabiliser les États. Aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, l'Est du continent, en Somalie, Al-Shabaab, un État parallèle.
Notre religion est attaquée. Nous savons que de nombreux pays comme l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre et des pays africains comme l'Ouganda, le Burundi et d'autres qui ne sont pas connus sont tous venus en Somalie pour combattre notre religion.
La Somalie fait face à de véritables défis sécuritaires parce que nous combattons à la fois Al-Shabaab et l'État islamique dans deux zones différentes. Durant les 3 dernières années, nous avons obtenu des succès importants. Al-Shabaab est faible par rapport à avant, mais reste un défi majeur pour la sécurité du pays.
Nous buvions du café et du thé, mais tout à coup, une forte explosion a retenti et les gens ont commencé à s'enfuir. Ensuite, 4 hommes armés sont arrivés et ont commencé à tirer. Ils ont tué tout ce qu'ils pouvaient.
Les armes à feu qui crépitent et sèment la désolation, la mort comme un nuage toxique fait de sang, de pestilence et de cris. Et pour citer M. Les Boum encore, les éclaboussures écarlates qui jaillissent des êtres qui tombent, elles s'oxydent au contact de l'air et prennent la teinte purpurine de flaques bues par la poussière. La poussière en l'occurrence de Mogadiscio, capitale de la Somalie, où l'on se souvient surtout du 14 octobre 2017, quand un camion chargé d'au moins 1 tonne d'explosifs et de nitrate de potassium a explosé à un carrefour. 587 personnes sont mortes sur le coup ou un peu plus tard de leur brûlure. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais l'implication de l'organisation Al-Shabaab ne fait à ce jour pas tellement de doutes. Pourtant, ce groupe, de son nom complet Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen, se fait fort depuis longtemps de ne plus viser les civils. D'ailleurs, le camion qui a explosé il y a 8 ans devait à l'origine viser un bâtiment officiel, peut-être un ministère, peut-être une base turque. En général, les Shabaab s'excusent même quand il y a des dommages collatéraux et le comble, ils souhaitent le meilleur aux victimes, le meilleur, approximation la plus voisine du paradis. Le 4 octobre dernier, c'est une prison de haute sécurité en plein cœur de Mogadiscio qui était attaquée par les Shabaab. Leur force de frappe paraît intacte après 3 années d'opérations antiterroristes qui ont vu le gouvernement fédéral, appuyé par les États-Unis, lui reprendre une partie des territoires qu'elle contrôlait. Aujourd'hui, les États-Unis concentrent leurs attaques sur l'État islamique, présent lui aussi en Somalie, quand les Shabaab, affiliés quant à eux à Al-Qaïda, développent leur projet beaucoup plus nationaliste, disons. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Brendan Novel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous êtes spécialiste du Somaliland notamment et de ses environs. C'est vrai que la Somalie est divisée en plusieurs États. Il y a le Puntland, le Somaliland. On aura l'occasion d'y revenir. Nous sommes également en ligne avec Robert Cluivert. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Culture Monde. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur aux séries de Sciences Po. Alors, avant de revenir sur toute l'histoire des Shabaab qui commence dans les années 2000, même dès la guerre civile en Somalie qui a démarré en 91, rappelez d'abord que les Shabaab sont toujours là en Somalie et que leurs armes se font toujours entendre. On va commencer par cette actualité pour changer un peu, Brendan Novel. Pourquoi les Shabaab ont-ils visé le 4 octobre une prison de haute sécurité près de la présidence somalienne en plein cœur de Mogadiscio? Quel était le but de cet assaut en particulier?
Alors le but de cet assaut, selon le discours d'Al-Shabaab, était de libérer certains des leurs qui sont effectivement détenus dans ce centre de détention au cœur de Mogadiscio, comme vous l'avez dit, tout près du palais présidentiel, la Villa Somalia. Donc voilà pour le premier objectif. Le deuxième, c'est tout simplement aussi de montrer qu'Al-Shabaab, de montrer par ses attaques terroristes en milieu urbain au cœur de Mogadiscio, de montrer qu'ils sont capables d'attaquer le pouvoir dans son cœur. Donc cette attaque-là s'inscrit dans de multiples autres attaques qui ont eu lieu cette année et toutes ces dernières années, avec l'attaque dont vous avez parlé en 2017, l'une des attaques les plus importantes de l'histoire contemporaine sur l'ensemble du continent africain, et ce qui montre aussi la prégnance des services de renseignement d'Al-Shabaab sur l'intégralité, ou en tout cas tout le centre et le sud de la Somalie, ce qu'on appelle les Amniyat, qui sont des forces opérationnelles, des agents du renseignement qui permettent de collecter des renseignements dans les zones contrôlées par le gouvernement, y compris à Mogadiscio, qui du coup permettent à Al-Shabaab de mener ce genre d'attaque et de passer aussi des checkpoints de manière relativement simple, comme c'était le cas pour cette attaque que vous avez évoquée.
Le groupe Al-Shabaab qui a aussi pénétré les forces de sécurité fédérales, comme l'explique cet ancien Shabaab à la chaîne YouTube Best Documentary, c'était en novembre 2023.
Ils vivent en ville, on ne peut pas les reconnaître, mais certains sont armés avec des pistolets.
Ils sont partout à Mogadiscio ?
Oui, ils sont partout à Mogadiscio. Il y a des espions qui recueillent des informations importantes. Et il y a aussi ceux qui collectent l'argent du racket. Même les ministres et les députés doivent les payer.
Ils sont plus forts que le gouvernement ?
Bien sûr qu'ils sont plus forts. Ils ont des kamikazes et une personne prête à mourir est plus forte que n'importe qui.
D'où la facilité avec laquelle ces Shabaab ont pu lancer leur attaque contre cette prison de haute sécurité en plein centre de Mogadiscio. Attaque quelques heures après que le Premier ministre de Somalie a lancé une campagne Mogadiscio sûre et faire ouvrir le matin même une cinquantaine de rues de la capitale jusqu'à présent fermées pour des raisons de sécurité, comme le racontait sur RFI notre consoeur Gaël Lelex. Alors de la même façon qu'on demandait hier à nos invités si au Mali, le JNIM avait l'intention, l'ambition de s'emparer de Bamako, Robert Cluyvert, est-ce que les Shabaab ont l'intention, mais surtout les moyens, de faire tomber Mogadiscio ?
Eh bien, ils sont déjà à Mogadiscio. On peut dire qu'ils gouvernent Mogadiscio plus efficacement que le gouvernement fédéral. Et la question est plutôt, est-ce qu'ils veulent prendre le pouvoir, est-ce qu'ils veulent avoir le pouvoir officiel ? Est-ce que ça les intéresse ? Est-ce que ça les bénéficierait ou est-ce que ça leur convient d'avoir cette façade du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale entre eux et l'international?
Parce que les États-Unis notamment sont présents en Somalie. Le département d'État américain estime aujourd'hui à 7 à 12 000 le nombre de combattants d'Al-Shabaab sur le territoire somalien. Les États-Unis qui mènent plusieurs opérations militaires contre plusieurs groupes djihadistes en Somalie, d'ailleurs pas seulement contre les Shabaab, mais surtout contre l'État islamique. Est-ce qu'ils sont aussi présents, les Américains, les États-Unis, dans la capitale, Mogadiscio, Brendan Novel?
S'ils sont présents, vous voulez dire sur le plan...
Ils sont toujours là ? Leurs bases militaires sont toujours là ? Ils sont toujours présents ou ils ont commencé un désengagement progressif comme ils l'ont fait ailleurs ?
Alors, lors du premier mandat de Donald Trump, le président états-unien s'était résolu à faire quitter les quelques centaines de soldats américains présents sur le territoire somalien. En intensifiant toutefois les frappes aériennes, les frappes de drones contre les positions d'Al-Shabaab en Somalie, Biden avait repositionné ses soldats, même si en fait ces soldats n'étaient pas vraiment partis, ou en tout cas s'étaient repositionnés notamment sur la base américaine de Djibouti, ce qui rendait du coup plus compliqué logistiquement parlant le déplacement des soldats américains en Somalie pour continuer leurs actions de formation et leur coordination logistique avec les forces gouvernementales. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les Américains, les États-Unis sont surtout présents dans les airs. 2025, c'est l'année record de frappes de drones au-dessus du territoire somalien. Vous l'avez évoqué, en particulier contre l'État islamique dans la région du Puntland, sans toutefois délaisser leurs frappes contre les militants d'Al-Shabaab sur le reste du territoire. Donc, on peut parler plutôt d'une continuité de l'engagement militaire, mais une forme de réorientation dans le sens d'un moindre engagement sur le sol, avec des fonds états-uniens bien moindres également, avec une aide qui a drastiquement diminué entre 2024 et 2025 de trois quarts. Donc, un engagement matériel sur le sol moins conséquent. Par contre, un engagement dans les airs qui l'est aujourd'hui beaucoup plus.
Donc, les fiefs d'Al-Shabaab sont plutôt dans le sud et le centre de la Somalie. Les opérations militaires états-uniennes sont surtout dirigées contre l'État islamique au Puntland, dans les montagnes du Puntland, même si une opération se prépare, je crois, Brendan Novell, en ce moment même, l'opération Al-Monkod, c'est ça, dans des montagnes entre le Puntland et le Somaliland, où se trouvent les Shabaab, en tout cas une poche de cette organisation.
Exactement. Le fief, comme vous l'avez évoqué, d'Al-Shabaab, se situe au centre et au sud de la Somalie. On trouve toutefois notamment des membres de l'AMNIAT, donc le service des renseignements d'Al-Shabaab au Puntland et sur le reste du territoire où les militants ne contrôlent pas, ne gouvernent pas, donc au Puntland et dans cette région frontalière du Somaliland et du Puntland. Et on trouve effectivement une poche dans une chaîne de montagnes entre ce qu'on considérait comme la frontière entre le Puntland et le Somaliland, la chaîne de montagnes Al-Medaw, dans laquelle se prépare, vous l'avez évoqué, l'opération Al-Unkud suite à l'opération Al-Hilar, qui du coup a eu lieu tout au long de cette année-là et qui a pris fin officiellement, selon les autorités du Puntland, à la fin du mois d'octobre, et qui a effectivement enregistré des succès, qui a pu frapper durement les militants de l'EI dans le nord du Puntland, dans la région du Bari, donc au sud de la grande ville côtière de Bosaso. Donc cette région est en préparation, elle n'a pas encore commencé, mais elle devrait l'être incessamment sous peu, ce qui positionne, pour finir, les militants d'Al-Shabaab en ce moment dans une phase défensive et de préparation à cette opération puntlandaise qui sera soutenue par les États-Unis et d'autres partenaires, les Émirats Arabes Unis et la Turquie.
Les militants d'Al-Shabaab qui sont aujourd'hui officiellement des affiliés d'Al-Qaïda, de quel appui en termes d'équipement et de moyens les Shabaab bénéficient aujourd'hui, Robert Kluivert, de la part d'Al-Qaïda? Ils sont estampillés Al-Qaïda depuis la fin des années 2000. Est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent vraiment en relation ou c'est juste une sorte d'étiquette qui les arrange?
Non, c'est plutôt une étiquette qui les arrange, parce que Al-Shabaab, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de soutien étranger. C'est un groupe donc qui arrive à collecter assez d'impôts pour non seulement financer ses opérations et ses opérations de gouvernance aussi,
auprès de
mais
qui
même aussi pour donner un peu la gouvernance, c'est-à-dire leurs opérations et la gouvernance de la population somalienne qu'ils contrôlent, parce que à peu près 50% du territoire somalien est plus ou moins sous leur contrôle, et souvent c'est plutôt plus que moins. Mais donc, ils sont autosuffisants, ils n'ont pas besoin d'Al-Qaïda. Donc, c'est plutôt une étiquette qui peut les arranger, qui peut, je pense qu'il y a certainement quelques appuis d'ordre logistique ou idéologique ou dans la préparation des publications, peut-être. Mais ça ne semble vraiment pas essentiel pour Al-Shabaab d'avoir le soutien d'Al-Qaïda, qui, de toute façon, n'a pas beaucoup non plus à apporter à ce mouvement. C'est plutôt dans le...
Oui. Comment elle s'est faite, Robert Kluivert, cette affiliation entre les Shabaab et Al-Qaïda? Est-ce qu'ils ont été créés par Al-Qaïda ou est-ce que les Shabaab ont postulé en quelque sorte pour être reconnus comme une sorte de franchise du réseau djihadiste?
Oui, c'est Al-Shabaab qui a postulé, qui a demandé en 2008, qui a annoncé qu'ils appartenaient à Al-Qaïda, mais en fait, Al-Qaïda ne les a pas acceptés en tant que membres, n'en parlait pas jusqu'en 2012. Donc, ça a quand même pris 4 ans pour se faire accepter par Al-Qaïda comme un mouvement de leur groupe. Et vraiment, donc, il faut vraiment retourner sur l'identité d'Al-Shabaab comme un mouvement nationaliste. Et, vous demandiez tout à l'heure par rapport à la politique américaine. Je pense que c'est intéressant de voir aussi que les Américains, ils ont appris en Afghanistan qu'avec un groupe nationaliste, djihadiste comme les talibans, et Al-Shabaab sont assez similaires dans ce sens-là, on peut faire un deal, on peut trouver un deal comme quoi, voilà, si on vous laisse gouverner votre territoire, est-ce que vous pouvez éviter qu'il y ait des groupes terroristes à visée internationale qui utiliseraient votre territoire pour préparer des attentats à l'étranger. Je pense que dans un sens, c'est très probable que la situation en Somalie évolue dans le même sens.
Et par ailleurs, ils ne sont pas internationalistes dans le sens où ils ne recrutent pas a priori de combattants étrangers, contrairement à l'État islamique en Somalie, qui attire des combattants étrangers très nombreux de Tanzanie, d'Afrique du Nord, de Syrie, d'Éthiopie aussi. On en parlera tout à l'heure en focus avec Marlène Panara, comment l'État islamique réussit à capter une partie des Éthiopiens qui partent vers les pays du Golfe et qui s'arrêtent en Somalie, et là l'État islamique réussit à en recruter parmi eux. En revanche, les Shebab, eux, ne comptent a priori pas de combattants étrangers dans leur rang. Brendan Novel, qu'est-ce qu'ils ont par ailleurs d'Al-Qaïda dans leur méthode, dans leur discours, dans leur doctrine? Ça reste un groupe qui utilise la violence.
Oui, ça reste un groupe qui utilise la violence. On l'évoquait avec des attaques terroristes en centre urbain et également une insurrection, une guerre d'attrition dans des zones plus rurales et dans des centres urbains plus reculés du centre et du sud de la Somalie. Vous m'interrogiez sur cette dimension et également la dimension idéologique. Le discours régionaliste, internationaliste qu'on peut trouver parfois chez Al-Shabaab, à savoir d'un horizon idéologique qui serait de l'instauration d'un État islamique dans l'ensemble, mettons, de la région somalophone, donc en Somalie, au Somaliland, dans le sud de Djibouti, dans la région de l'Ogaden, en Éthiopie, au nord-est du Kenya.
Aussi.
Cet horizon idéologique-là, il est... Et ce discours régionaliste et internationaliste, il est tout à fait secondaire par rapport à la logique très locale d'Al-Shabaab, à savoir d'être un groupe qui se positionne comme le groupe de résistance aux ingérences étrangères, aux forces étrangères en soutien à un gouvernement qu'il considère comme un gouvernement apostat. Donc cette logique là, elle est aussi très 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 matérielle. Le cœur et la majorité, l'écrasante majorité des actions d'Al-Shabaab surviennent sur le territoire somalien, contre les forces de l'armée nationale somalienne, contre les forces de l'Union africaine. Et effectivement, depuis 2011, Al-Shabaab a mené des attentats qui ont pu être très sanglants dans des pays qui contribuent aux troupes de l'Union somalienne, de l'Union africaine en Somalie. Donc, la dimension, pour conclure, la dimension internationaliste du discours d'Al-Shabaab, c'est dans un sens, a été arrimé à une logique et un discours plus local qui prime et qui aussi s'explique du fait de la naissance de la genèse d'Al-Shabaab, qui est une genèse somalienne et qui naît du contexte somalien,
qui prend sa source, ses racines dans la guerre civile. On va en parler. L'utilisation de la violence, c'est ce sur quoi le numéro 2 d'Al-Shabaab a été interrogé récemment sur Channel 4 News par un journaliste qui s'appelle Jamal Osman.
La Somalie est intégralement musulmane. Vous y combattez. Ne pouvez-vous pas trouver une solution sans faire appel aux armes, à la guerre et aux tueries?
C'est une question importante. La vérité est que sur cette terre, personne n'a mis en place ses principes, son système et son administration en étant pacifique. Notre compréhension de cette guerre est que notre religion est attaquée. Mais ce n'est pas une guerre entre musulmans.
Pourquoi êtes-vous contre la démocratie?
C'est facile à expliquer. La démocratie est une religion pour les non-musulmans. C'est contre nos croyances et notre identité. Nous sommes musulmans. L'islam et la démocratie ne sont pas compatibles. La démocratie, c'est le choix du peuple. Ce en quoi nous croyons, c'est que la loi ne vient de personne d'autre que d'Allah.
là.
Envisagez-vous de vous emparer de la Somalie comme les talibans l'ont fait avec l'Afghanistan?
C'est notre objectif. Nous emparer de la Somalie est notre objectif, si Dieu le veut.
Alors, de toutes les organisations djihadistes dont nous parlons cette semaine, celle des Chebabs en Somalie est certainement la moins connue et celle dont on parle le moins souvent, au-delà bien sûr de la Somalie et de ses voisins de la Corne de l'Afrique. Quand l'organisation s'est-elle formée? Et Robert Cluyver, comme vous êtes entretenu avec un des fondateurs d'Al-Shabaab, quel était le projet de départ? 6 projets il y avait à l'époque?
Eh bien, donc Al-Shabaab s'est formé en 2002. Il est né d'un mouvement qui s'appelait Al-Ittihad Al-Islamiyya, hein, l'unité islamique, qui était la seule faction pendant la guerre civile, qui a commencé en 1991, la seule faction qui n'était pas basée sur le clan et qui avait donc une idée de transcendre cette identité clanique et de créer une identité somalienne qui ne soit pas basée sur le clan. Et donc, cette idée-là a toujours a eu beaucoup de soutien en Somalie, mais n'a jamais pu s'imposer parce que le pouvoir a toujours été distribué à travers les systèmes claniques. Donc, Al-Shabaab se forme en 2002. Le mot veut dire la jeunesse, hein, Harakat Al-Shabaab Al-Muslimin. Le mouvement des jeunes musulmans
de Somalie.
Donc, ils avaient cette idée, voilà, de Somalie. Ils avaient cette idée, voilà, on va former une nouvelle Somalie. Le fondateur que j'ai interviewé à Bouro, qui s'appelle Ismaël Arale, qui était longtemps aussi détenu à Guantanamo Bay, il était, par exemple, il était journaliste. Il était un jeune journaliste, voilà, il voulait aussi, il s'intéressait, disons, à créer une nouvelle Somalie. Alors, le mouvement s'est forgé avec 2 soutiens très importants. D'abord, c'était les cours islamiques, hein, donc les tribunaux islamiques, les juges, les ulamas. Et de l'autre côté, c'était les entrepreneurs somaliens qui ne pouvaient plus opérer dans un pays qui était tellement divisé en factions. Et même la ville de Mogadiscio, on passait sans cesse par des checkpoints où il fallait tout faire taxer et ils n'en pouvaient plus. Donc, ils étaient très contents de financer Al-Shabaab qui s'est formé comme le bras, disons, de militants de mise en œuvre des tribunaux islamiques. Et en 2009, excusez-moi, je fais un fast-forward.
Allez-y, vous avancez un petit peu, oui. Ouais. Ah, d'accord, en 2007.
Oui, j'avance vite fait. En 2007, oui, excusez-moi. Donc, il y a eu l'invasion éthiopienne pour mettre fin à l'expériment des tribunaux islamiques. Les tribunaux islamiques se sont dissoutes. Al-Shabaab a continué et s'est transformé en mouvement de résistance nationale. Ils ont commencé à gouverner du territoire déjà en 2007. Ils gouvernaient aussi Mogadiscio et Kismayo. C'est jusqu'en 2012 à 14 quand vraiment la force d'intervention africaine AMISOM, soutenue par la communauté internationale, a commencé à reprendre du terrain, y compris Mogadiscio et l'autre port important de Kismayo, que Al-Shabaab s'est retrouvé, disons, cantonné aux provinces qu'il contrôle directement depuis 2014 jusqu'à maintenant, sans beaucoup de changements, avec beaucoup de continuité, donc, qui leur a permis aussi d'établir une gouvernance sur la population somalienne et de se faire valoir et de se faire respecter aussi dans un sens comme gouvernance, qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont populaires.
Donc, on comprend
que j'ai
bien.
Répondu à
oui,
la question
oui, 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 on comprend bien que l'objectif de départ, c'était de créer un groupe politique qui transcendrait le clan, bâtir une Somalie nouvelle qui réunirait tous les Somaliens sur la base de la loi islamique. C'est ça qu'il est, c'est le ciment qu'il mettait en avant. Mais d'abord, jusqu'où la Somalie, Brendan Novel, était à cette époque marquée par ces divisions entre clans dans un pays présidé pendant 22 ans jusqu'en 91 par Siad Barré, qui souhaitait un État fort et centralisé. Qu'est-ce que ça veut dire que la Somalie était vraiment dirigée par les clans à ce moment-là et pourquoi Al-Shabaab, qu'est-ce que les Shabaab avaient à vendre, entre guillemets, de mieux, puisque Robert Cluyver dit que, par exemple, les habitants de Mogadiscio en avaient marre de payer tout le temps, d'être prélevés tout le temps par les clans pour, ne serait-ce que pour circuler. Or, les Shabaab aussi taxent les populations. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient à proposer de contre-modèle, en quelque sorte?
qu'est-ce qu'ils avaient à proposer et qu'est-ce qu'ils ont toujours à proposer, à savoir une rhétorique et des pratiques transclaniques. Al-Shabaab propose cela aujourd'hui, et l'Union des tribunaux islamiques que Robert évoquait proposait également la même chose. L'Union des tribunaux islamiques, comme Robert l'évoquait, est née du chaos et de la guerre civile somalienne qui, du coup, fait rage depuis 1991, où les dynamiques étaient claniques avec des coalitions de chefs de guerre qui, effectivement, ne proposaient aucune forme de sécurité ou d'ordre ou quoi que ce soit. Du coup, les tribunaux islamiques se sont coalisés à partir de 2000 en une union des tribunaux islamiques, ont proposé de rétablir une forme d'ordre qui, du coup, dépasse les logiques claniques et un ordre chariatique dont Al-Shabaab s'est ensuite emparé sur le plan discursif, mais aussi sur le plan des pratiques à partir de 2006 et jusqu'à aujourd'hui encore, puisque pour la plupart des Somalis, le principal problème pour la part des Somaliens, le principal problème réside dans les dynamiques claniques qui sont au cœur aujourd'hui de la construction de l'État fédéral somalien et dont se joue non seulement le gouvernement central, mais aussi les forces provinciales et les forces claniques locales.
C'est vrai que la loi islamique a toujours existé en Somalie, mais elle était subordonnée au pouvoir des clans, un peu comme chez les Pachtounes d'ailleurs, où le droit coutumier et la charia se mélangent et on ne peut pas toujours savoir à quel droit se réfère telle ou telle règle. Eh bien, dans les clans, la façon de rendre justice n'est pas toujours très claire.
Un de nos fils, qui est policier, a arrêté un chauffeur de tuk-tuk. Ils ne se sont pas bien compris. Alors, il a sorti son arme et il l'a tué. Notre religion nous offre trois options dans ce genre de cas. Soit nous tuons un des nôtres, soit les victimes nous pardonnent, ou alors nous payons une certaine somme d'argent. C'est ce que nous avons choisi.
Notre tradition prévoit que nous devrons payer l'équivalent de 100 chameaux à la famille de la victime.
Si l'on s'en tient d'abord à la justice, à la façon de rendre la justice, Brendan Novel, le fait que les Shebabs, qui sont eux-mêmes à l'origine des jeunes issus des tribunaux islamiques créés à la fin des années 80, des années 80. Enfin, en tout cas, les Shebabs sont d'anciens, non pas juristes, je crois qu'ils n'étaient pas tous juristes, mais ils avaient cette habitude d'être dans la loi, des hommes de loi qui étaient chargés de voir comment les peines étaient rendues et comment elles étaient appliquées. Qu'est-ce que change le fait que les Shebabs aujourd'hui rendent justice? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont des tribunaux partout, ils vont vite dans la façon de résoudre des litiges, et surtout, est-ce que ça passe systématiquement par la peine de mort, comme ces clans qui sortent très rapidement une arme, ou il y a une autre façon de réfléchir à ce que c'est qu'une peine ?
Cette question de la justice, elle est importante parce qu'elle est au cœur de la gouvernance d'Al-Shabaab. Robert l'évoquait, ce qui fait la principale force d'Al-Shabaab aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais c'est d'abord sa capacité à gouverner un large pan du territoire somalien au centre et au sud, de combler le vide de l'État somalien, de combler le vide sécuritaire, le vide de l'État en service public, hein, du coup, y compris en justice, la justice qui est l'un des piliers pour instaurer une forme d'ordre et de sécurité auprès des populations qui n'ont plus foi, et y compris sur le plan de la justice, en les institutions des autorités somaliennes fédérales.
Donc là, il y a même presque des tribunaux ambulants autour de Mogadiscio.
Effectivement, il y a des tribunaux islamiques fixes, mais aussi mobiles, qui font que beaucoup de Somaliens et de Somaliennes se rendent dans ces tribunaux, y compris ceux qui habitent dans des zones contrôlées officiellement par le gouvernement, mais qui se rendent dans ces cours de justice. Pour quelle raison ? Parce que, comme je l'évoquais, la population n'a plus foi en le système judiciaire somaliens, considérés comme corrompus, injustes, lents. Ce que n'est pas, en tout cas, ce qui est moins les tribunaux islamiques d'Al-Shabaab, qui ont également la capacité de faire appliquer leurs décisions dans les zones qu'ils contrôlent, mais également dans les zones qu'ils ne contrôlent pas. Donc c'est un système judiciaire plus efficace et mieux considéré par un large pan de la population.
Et les peines, encore une fois, de quelle nature sont-elles quand une sentence est prononcée, Robert Kluivert, par ces tribunaux islamiques des Shebab? Et comment vivent, par exemple, les femmes somaliennes dans ces territoires contrôlés par les Shebab, puisque le socle commun pour vraiment subordonner le pouvoir des clans en Somalie à une forme de gouvernement central, c'est la charia?
Bien oui, bah, vous avez bien dit avant que la charia, avant, elle se trouvait subordonnée au droit coutumier des clans. Et Al-Shabaab, ils ont inversé cette relation et c'est fondamental. Parce que finalement, la charia est un système de rendre justice beaucoup plus moderne que le système du droit coutumier, même si nous, on en pense autrement en Occident. Mais c'est un système, par exemple, qui privilégie la responsabilité individuelle au lieu de la responsabilité collective du système de clan. Et ça, c'est une transformation énorme dans la société somalienne. Après, vous avez demandé pour le système des peines et comment c'est vécu par la population, et les femmes notamment. Alors, pour commencer avec les femmes, évidemment, les femmes éduquées qui seraient en ville, qui issues de la diaspora, pour elles, c'est une horreur, l'idée d'être soumise à la charia telle que la conçoit Al-Shabaab.
Est-ce qu'on peut comprendre ?
Mais pour la plupart des... Oui, voilà. Et pour la plupart des femmes rurales, en fait, Al-Shabaab, ils ont apporté une amélioration. On a fait quelques tests que j'ai pu lire entre la population, enfin quelques sondages, pas vraiment des sondages quantitatifs, mais des sondages qualitatifs, où on demandait aux femmes somaliennes qui vivent sous l'emprise, enfin sous Al-Shabaab, comment est-ce qu'elles vivent cette situation. Et souvent, en fait, elles apprécient parce que, primo, il y a la paix. Deuxièmement, les droits des femmes sont souvent mieux protégés par la charia que par le droit coutumier. Donc, en fait, il y a eu une progression dans le statut des femmes par rapport au droit coutumier. Et troisièmement aussi, il y a un système qui est impersonnel, où elles sentent qu'elles peuvent aller dans un tribunal, recourir à la justice, trouver la raison, tandis que ce qu'elles ont l'habitude de vivre, c'est-à-dire un système qui est officiellement de droit constitutionnel fédéral, mais qui en fait est complètement clanique, ne garantit pas leurs droits aussi bien que, disons, les tribunaux charia d'Al-Shabaab. Pour le reste de la population, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié le fait qu'Al-Shabaab amène la paix et la prévisibilité, c'est important aussi. Et même s'ils ne sont pas du tout d'accord souvent avec l'idéologie d'Al-Shabaab et surtout cette idée qu'Al-Shabaab serait de meilleurs musulmans qu'eux, c'est quelque chose qu'on rejette en général. On rejette aussi beaucoup leur côté violent, hein, comme vous avez commencé l'émission avec cet attentat terrible de octobre 2017, qui a fait en fait lever des foules de Somaliens qui ont protesté contre Al-Shabaab dans les rues. Ça, c'était quand même assez inouï, des foules qui protestent contre un mouvement terroriste. Donc, on est contre tous ces aspects-là, mais on apprécie le fait qu'ils gouvernent, qu'ils sont pas corrompus aussi. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau en Somalie. Ils ne sont pas corrompus. Ils se soumettent eux-mêmes. Les dirigeants d'Al-Shabaab sont soumis aux mêmes lois et aux mêmes punitions que le reste de la population. Et voilà, donc c'est prévisible et on sait à quoi s'en tenir.
Donc on a bien compris que vous disiez que la charia était une aubaine pour les habitants de la Somalie, en particulier pour les femmes, mais que ça restait à certains égards moins pire que le droit coutumier qui jusqu'à présent était appliqué par les clans et appliqué de façon tout à fait aléatoire. Quand on dit que les Shebab profitent de la faillite de l'État en Somalie, de quelle vide exactement est-ce qu'ils profitent? Qu'est-ce que ça veut dire, Robert Kluivert, je crois que vous avez discuté avec des employés des Nations Unies à Mogadiscio. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien que l'État fédéral somalien ne fait rien?
Eh bien, c'est un peu dramatique parce que tout l'argent international passe par l'État fédéral, donc on ne comprend pas où disparaît cet argent et pourquoi il n'arrive pas à goudronner les rues à Mogadiscio, par exemple, ou à payer des salaires dans l'éducation nationale. En fait, les gens qui sont employés en tant que maître d'école ou professeur sont tous payés en fait par des ONG étrangères, souvent avec l'argent des Nations Unies. Et donc, on se demande, mais que fait ce gouvernement? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables d'apporter non plus l'ordre et la sécurité comme l'attentat en plein centre de Mogadiscio il y a une semaine a démontré? Et pourquoi, par contre, Al-Shabaab arrive à gouverner et à apporter une gouvernance et pas l'État fédéral? Ça, c'est la question que se posent même les habitants de Mogadiscio, qui sont absolument pas sympathiques ou des sympathisants d'Al-Shabaab, mais qui aimeraient voir un gouvernement fédéral qui fonctionne.
Et certains vous ont dit d'ailleurs que des membres du gouvernement ne connaissaient même pas les noms des rues à Mogadiscio, tellement ils sont à ce point déconnectés de la population de la capitale. Brendan Novel, comment aujourd'hui est envisagée la lutte contre les Shabaab, y compris au niveau régional? Est-ce que ça passe par la réforme de l'État somalien, ou cette dimension-là n'est pas prise en compte? A-t-elle été prise en compte, par exemple, lors de la rédaction de la dernière constitution en 2024?
Il s'agissait d'amendements à la constitution provisoire de 2012.
On y avait consacré une émission d'ailleurs dans Culture Monde, et je le note parce que une émission entière sur la constitution de la Somalie, c'était
pointu.
Très bien.
Ce qu'il faut comprendre dans ce qui fait l'une des forces qu'on n'a pas encore évoquées d'Al-Shabaab, c'est effectivement principalement le fait de se substituer comme autorité politico-administrative, mais c'est également sa capacité, on l'a un peu évoqué, mais sa capacité militaire avec les attaques terroristes en centre urbain et sa capacité à se jouer aussi des lignes de front qui ne sont pas linéaires dans des zones plus rurales. Et cette capacité, elle découle aussi du fait de toutes les failles et des défaillances de l'armée nationale somalienne qui manque de moyens, qui manque de commandement dans les interventions opérationnelles, donc sur le terrain, des failles dans l'armée au niveau logistique et de coordination avec des forces locales aussi qu'on appelle les Marawisley, qui sont des forces claniques d'autodéfense qui ont aidé l'armée à reconquérir du territoire dans une phase d'offensive suite à l'élection d'Hassan Cheikh Mahmoud en mai 2022, mais une phase qui malheureusement n'a pas duré très longtemps, dans le sens où dès début 2023 les Shabab ont regagné du terrain et plus encore depuis le début de l'année de 2025, où Al-Shabaab a pu récupérer des dizaines de villes et de villages qui lui avaient été récupérés à l'automne 2022. Donc c'est aussi une vraie capacité militaire du côté d'Al-Shabaab qui surfe sur toutes les failles et les défaillances sur ce plan-là de l'armée nationale somalienne. Et vous l'évoquiez, les divisions qui existent aussi sur ce plan-là entre les forces gouvernementales et les forces provinciales. Ce qui empêche aussi l'établissement d'un front uni contre Al-Shabaab, où on a vu par exemple fin 2024 Hassan Cheikh Mahmoud, le président somalien, déployer des forces de l'armée nationale somalienne au Jubaland, une région du sud de la Somalie, pour tenter de déloger le président Ahmed Madobe, qui a été réélu fin 2024. Réélection que ne reconnaît pas et que conteste Hassan Cheikh Mahmoud, dans une lutte donc de pouvoir, de concentration des ressources politiques et économiques à Mogadiscio, que rejettent évidemment certaines des plus importantes administrations provinciales. Donc un déploiement de forces dans cette région-là, des forces qui du coup ne sont pas déployées sur le terrain. Et même un déploiement de forces, y compris encore dans cette région, un autre exemple, des forces particulièrement Gorgor, qui sont des forces spéciales entraînées par la Turquie, qui ont été déployées dans le nord du Jubaland, de manière à contrer et à conforter leur position contre les forces d'Ahmed Madobe, le président du Jubaland, et encore une fois, des forces qui du coup ne sont pas déployées sur le front contre Al-Shabaab.
Hier, dans notre émission sur Mali, on disait combien la réponse militaire n'était pas suffisante. En Somalie, il n'y a même pas donc de réponse militaire, en tout cas pas aussi coordonnée qu'elle devrait l'être, pas aussi massive qu'elle devrait l'être. Donc on part de loin, même si l'objectif reste vraiment, et même le président actuel, Hassan Cheikh Mahmoud le dit, mettre fin aux divisions entre chefs de clan, État fédéré, État fédéral. Bon, il n'y arrive pas du tout pour l'instant. Et là où le vide persiste, eh bien le terrorisme souvent arrive. C'est le cas donc dans le Puntland, dans le Jubaland, et l'État islamique aussi s'en sert. On en parlera en focus juste après cette artiste somalienne, Mariam Mursal. Mariam Mursal, chanteuse somalienne, mais plus précisément du Somaliland. Et en Somalie, c'est important de préciser ce genre de choses. Dans cette chanson « Kar », qui veut dire « réfugié », chantée en 98, elle évoque le périple de 7 mois qu'elle a fait avec ses 5 enfants en 91, à pied, à Dodane, en camion. Ils ont fui leur Somalie natale pour se réfugier au Danemark. « Je trébuche, je chancelle, je déambule, le jour où je quitte Mogadiscio, l'air est saturé de coups de feu. » Cette artiste est produite par ailleurs par le label Real World de Peter Gabriel. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur la recomposition des mouvements djihadistes et le combat qu'ils mènent face aux États. Aujourd'hui, le mouvement Al-Shabaab en Somalie. Alors si les Shabab restent dans une logique nationale, voire nationaliste, l'État islamique présent en Somalie, lui, recrute des combattants étrangers et notamment des Éthiopiens sur leur route d'exil vers les pays du Golfe.
France Culture. Culture Monde, Julie Gacon.
Car parmi les Éthiopiens qui espèrent construire une nouvelle vie dans les pays du Golfe, certains passent par la route dite de l'Est, qui passe par le Puntland somalien. Il faut ensuite traverser la mer Rouge et rejoindre les côtes du Yémen. S'ils ne tombent pas entre-temps sur l'État islamique, il y a des arguments à faire valoir auprès de ces personnes en manque d'argent. Bonjour Marlène Panara.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, correspondante à Addis Abeba en Éthiopie pour RFI et le journal Le Monde. D'abord, qu'est-ce qui pousse des milliers d'Éthiopiens non seulement à quitter l'Éthiopie vers les pays du Golfe, mais aussi à emprunter cette route-là qui passe par la Somalie plutôt que par Djibouti, l'Érythrée est limitrophe aussi, mais le pays est beaucoup plus fermé. Pourquoi passer par la Somalie ?
Alors oui, c'est vrai que les passages par la Somalie sont moindres, hein, c'est-à-dire que On a à peu près 60 000 Éthiopiens qui passent par la Somalie pour rejoindre les États du Golfe, contre plus de 150 000 en direction de Djibouti. Mais voilà, il y a quand même une bonne part considérable d'Éthiopiens qui choisissent la Somalie, bien tout simplement parce que cette route vers la Somalie, elle est moins surveillée, hein, elle est moins connue. Donc en fait, il y a moins de surveillance, moins de risque d'être arrêté par la police et d'être expulsé. Et puis, elle est aussi moins chère. Faut savoir qu'un passage en mer de Djibouti au Yémen, bien qu'il soit assez court, hein, puisque c'est à peu près une trentaine de kilomètres, ça coûte parfois des milliers de dollars, alors qu'une traversée en mer depuis la Somalie, donc là en l'occurrence depuis le Puntland jusqu'au Yémen, qui est plus longue, hein, puisque c'est 200 kilomètres, donc en fonction des conditions de traversée, ça peut mettre de 24 à 48 heures, bien c'est beaucoup moins cher, hein, ça coûte une centaine de dollars. Donc voilà, c'est pour ça que la plupart des Éthiopiens qui empruntent cette route vers la Somalie choisissent plutôt ce côté-là plutôt que de partir par Djibouti.
Donc en 2024, vous disiez 60 000 Éthiopiens qui optent pour un passage par la Somalie et en particulier par le Puntland parce que les plages y sont moins surveillées. Et d'un autre côté, le Puntland aride et montagneux où l'État islamique est également implanté depuis 2015. Pourquoi l'État islamique a-t-il choisi cette région-là ?
Alors oui, l'État islamique s'est implanté dans cette région en 2015, hein, quand Abdulkadir Moumine a quitté les Chababs justement pour faire allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi. Ils se sont installés dans la chaîne de montagnes qui s'appelle Khal Miskat. Et voilà, c'est une chaîne de montagnes qui est aride, qui est loin de tout, loin de la ville. Et en fait, il y a aussi des avantages à s'installer là, c'est-à-dire que d'un côté, vous êtes quand même proche du Moyen-Orient. Voilà, donc pour avoir des échanges avec les bases au Moyen-Orient, notamment en Syrie, c'est quand même plus simple. Et puis, il y a aussi une influence limitée du groupe rival les Chababs. Même si on l'a dit au début de l'émission, il y a des poches de Chababs dans cette zone, mais ça reste quand même assez limité. Donc, en fait, l'État islamique, il y a quand même, on va dire, le champ libre, hein, et quand même a plus de voilà, plus d'accès en fait à ces migrants et aux personnes qui traversent à cet endroit.
Donc des intérêts qui convergent, des destins qui se rencontrent. Où, Marlène Panara, où se font ces rencontres précisément entre les membres de l'État islamique, qui seraient un millier d'hommes à peu près selon l'ONU, et les Éthiopiens sur leur route d'exil?
Alors beaucoup de ces rencontres se font à Bosaso. Bosaso, c'est le centre économique du Puntland, donc cette région autonome. Bosaso, c'est une ville où il y a beaucoup de migrants qui se rejoignent là, parce qu'en fait les migrants font une pause à Bosaso avant de partir. C'est un endroit où ils peuvent déjà se reposer. C'est aussi un endroit où ils peuvent travailler. En fait, pour accumuler un petit peu d'argent pour pouvoir payer leur passage. Et donc, c'est dans cette ville, en fait, que les membres de l'État islamique viennent rencontrer les migrants, voir un petit peu qui pourrait intégrer le groupe, et repèrent aussi les profils les plus vulnérables.
Pour leur proposer quoi exactement ? Est-ce que c'est vraiment de combattre, ou ça peut être pour des tâches, disons, du quotidien, pour l'intendance tout simplement de l'État islamique ?
Alors en fait, il y a une petite part, hein, quand même, des migrants éthiopiens qui rejoignent l'État islamique par conviction, hein, par idéologie, qui sont déjà radicalisés, mais ça reste quand même très mineur. La plupart des migrants éthiopiens qui rejoignent l'État islamique, en fait, ils y voient des avantages matériels, en fait, parce que, comme je l'ai expliqué, ces migrants, quand ils arrivent à Bosaso, ils sont épuisés. La plupart sont dénutris, hein, parce qu'ils viennent donc de l'Oromia, une région d'Éthiopie qui est lointaine, donc ils sont vraiment très fatigués, ils n'ont plus de ressources, ils sont dans le dénuement le plus total, et donc l'État islamique va en fait exploiter cette vulnérabilité, ce désespoir, pour proposer à ces migrants de travailler pour eux, donc en échange d'un petit salaire. Donc en fait, de travailler pour eux, et aussi, ils leur proposent de la nourriture, de l'eau, des conditions matérielles qui sont vraiment meilleures que celles qu'ils peuvent avoir à Bosaso dans la rue. Il y a beaucoup de migrants qui dorment dans la rue. Ça, c'est mon confrère Marco Simoncelli qui est allé à Bosaso, qui a vu des migrants dormir à même le sol. Et donc voilà, donc ces migrants vont être séduits par les conditions matérielles que peuvent leur offrir l'État islamique. Et donc, si je peux te détailler un peu sur ces tâches qui leur sont proposées, alors c'est des petits travaux, hein. Ça va être des petits travaux logistiques, par exemple, de transporter des vivres d'un point à un autre, de s'occuper des endroits où, les, où l'État islamique vit, hein, de faire le ménage aussi, et puis aussi de faire un petit peu d'agriculture, de produire un petit peu de nourriture pour le, l'organisation.
De quoi détourner les Éthiopiens, certains Éthiopiens, de leur route, notamment parce que certains ont peur de la traverser en mer. Le golfe d'Aden est plus dangereux qu'il n'en a l'air, et entre janvier et juin cette année, on décompte 350 morts sur cette route de l'Est. Alors ce ne sont pas que des naufrages, mais la route est par ailleurs difficile, mais en tout cas depuis le Puntland, on peut mettre 3 jours à traverser pour rejoindre le Yémen. Est-ce que l'État islamique profite par ailleurs de la présence de ces Éthiopiens en Somalie pour tirer profit de leur exil en se lançant dans le macabre marché des migrations, en se transformant en passeur, en quelque sorte, Marlène Panara ?
Alors ça, on a encore peu d'informations sur cet aspect-là en discutant avec plusieurs sources. Toutes m'ont dit que effectivement, ça pouvait être une opportunité hein, pour les membres de l'organisation islamique, parce qu'on sait que le passage de migrants, bah, c'est un business qui est très fructueux. Donc pourquoi ne pas le tenter ? Donc en fait, ils pourraient, oui, dévier un peu de leur fonction traditionnelle de prélever de l'argent. Hein. L'État islamique, en fait, pour avoir de l'argent, il prélève des taxes auprès des commerçants de la population du Puntland. Donc ça serait pas étonnant, en fait, que oui, il dérive un peu de son business traditionnel pour profiter en fait de cette manne du trafic de migrants. Mais en tout cas, on le suppose. Mais pour l'instant, c'est compliqué de l'affirmer. Mais en tout cas, c'est vraiment probable, oui.
Pour conclure, quand ces Éthiopiens finalement retournent en Éthiopie, parce que ça arrive, est-ce que le fait d'être passé par le Puntland leur pose problème auprès des services de sécurité éthiopiens ?
Alors oui, en fait, justement, il y a eu des arrestations au mois de juillet dernier par les autorités éthiopiennes. Donc 82 personnes soupçonnées d'appartenir à l'État islamique ont été arrêtées en Éthiopie. Et d'après les autorités, donc la grande partie de ces personnes avaient suivi un entraînement, comme ils disent, au Puntland. Donc voilà, en fait, si vous êtes un migrant, que vous passez par le Puntland et que vous revenez ensuite en Éthiopie, voilà, vous êtes très, il est très probable que vous soyez arrêté. Après, c'est compliqué de savoir parmi ces 82 personnes qui étaient vraiment embrigadés par l'État islamique, qui n'était passé que par l'organisation que pour, justement, c'est ce qu'on a dit, s'offrir des conditions matérielles un peu plus confortables. Il y a très peu d'informations sur les profils des personnes arrêtées, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, les autorités, oui, ont affirmé que parmi ces 82 personnes, certaines avaient prévu de faire des attentats sur le sol éthiopien.
Merci beaucoup, Marlène Panara, d'avoir été avec nous dans Culture Monde, journaliste indépendante. On peut vous lire dans Le Monde et vous entendre sur RFI. Vous êtes correspondante à Addis Abeba. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je remercie nos invités, Brendan Novel. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio, doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et merci à Robert Cluyver, docteur en sciences politiques, chercheur aux séries de Sciences Po. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
C'est une question qui agite de plus en plus les médias. Catherine, l'intelligence artificielle constitue-t-elle une bulle prête à éclater ?
L'inquiétude gagne aussi bien les marchés que la presse généraliste et spécialisée. Face à des dépenses vertigineuses dans l'IA et des profits pour l'instant insuffisants, les investisseurs se sont débarrassés des titres de créance des géants de la tech aux États-Unis, note le Financial Times, et c'est la preuve que les inquiétudes liées aux dépenses, aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle se propagent désormais au marché obligataire, marché vers lequel se tournent les géants de la tech pour financer leurs investissements dans l'IA. l'IA. Google, Amazon, Microsoft et Meta vont investir plus de 400 milliards de dollars dans des centres de données l'an prochain, en plus des 350 milliards déjà investis cette année. Microsoft a également annoncé hier 10 milliards de dollars pour développer un centre de données dans le sud du Portugal, dans la ville portuaire de Sines, annonce le quotidien portugais Expresso. Mais les géants de la tech s'endettent rapidement pour financer cette expansion dans le domaine de l'IA. Malgré leurs importantes réserves de trésorerie, ajoute le Financial Times, cet endettement inquiète les investisseurs. Oracle, par exemple, a émis pour 18 milliards de dollars d'obligations en septembre dernier pour financer des contrats de location d'infrastructures comme le gigantesque centre de données Stargate d'OpenAI à Abilene, au Texas, où les habitants d'ailleurs s'inquiètent de la consommation en eau d'un tel projet, dans une région déjà confrontée au stress hydrique, souligne le quotidien local Abilene Reporter News et l'agence de presse financière Bloomberg. Crainte de pollution, ajoute même le Texas Observer, pour qui le boom de l'IA passe avant la santé humaine.
Mais l'intelligence artificielle bat toujours son plein, comme vous dites.
Les géants chinois Alibaba et Tencent ont augmenté leurs investissements pour aider Pékin à devenir leader en intelligence artificielle d'ici 2030. Et puis OpenAI et le géant des puces Nvidia ont annoncé plus de 100 milliards de dollars d'équipements destinés à augmenter les capacités d'OpenAI dans l'intelligence générative, détaille la Deutsche Welle. Risque de voir l'argent circuler en vase clos, alerte CNN et le magazine Fortune, entre ces grands groupes qui signent des partenariats, se prêtent de l'argent entre eux, gonflant ainsi leur valorisation. Et l'ampleur des sommes investies contraste avec les revenus générés par l'IA, souligne encore la Deutsche Welle. OpenAI, le leader du marché soutenu par Microsoft, espère 13 milliards de dollars de bénéfices cette année, mais il devrait dépenser 129 milliards d'ici 2030. Et cela surpasse de loin les précédentes frénésies spéculatives, alerte un expert interrogé par la Deutsche Chevelleux. Il évoque une mauvaise allocation des capitaux équivalente à 75% du PIB des États-Unis, soit 4 fois plus que la construction de logements avant la crise financière de 2008-2009 et 17 fois plus importante que lorsque la bulle Internet avait éclaté dans les années 2000, rapporte la Deutsche Welle. Autre signe de cette inquiétude, l'investisseur de fonds spéculatifs Michael Burry, qui avait empoché 2 milliards de dollars en anticipant la crise des subprimes en 2008 et la fin de la bulle immobilière américaine, inspirant d'ailleurs le film The Big Short, rappelle la BBC, cet investisseur a parié 1 milliard de dollars sur une baisse des cours des actions liées à l'intelligence artificielle de Nvidia et Palantir, ce qui a entraîné de fait une baisse des actions des principales sociétés de la tech, explique la BBC et le Wall Street Journal. Alors pour le journal suisse Le Temps, la question n'est pas de savoir si la bulle de l'IA éclatera, mais quand. Et lors d'une conférence organisée en Californie par le Wall Street Journal, la directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a évoqué un filet de sécurité, une garantie que pourrait apporter l'État fédéral aux États-Unis pour financer l'intelligence artificielle et notamment OpenAI, alimentant ainsi les inquiétudes sur la capacité des géants de la tech à absorber les coûts colossaux dans la course effrénée à l'IA. Il n'y aura pas de plan de sauvetage fédéral pour l'intelligence artificielle, a répondu David Sachs, le principal conseiller de Donald Trump sur l'IA.
Enfin, Catherine, direction la République dominicaine, où l'électricité est en train d'être rétablie progressivement.
Après un blackout qui a privé hier une grande partie du pays de courant, affectant notamment Saint-Domingue et la station balnéaire de Punta Cana.
Apagón masivo afecta a todo el país. El caos por la falla energética se apoderó.
Une panne d'électricité massive a touché l'ensemble du pays. Le chaos provoqué par cette panne de courant s'est vu dans les rues, sans feu de circulation, mais aussi dans le métro où des passagers ont été bloqués pendant des heures, décrit la chaîne télévisée dominicaine Noticias Sin. Ces dernières semaine, des coupures de courant pouvant durer plusieurs heures ont été fréquemment signalées dans différentes régions de la République dominicaine. Des coupures dues à un manque d'entretien, à des pannes, à des connexions illégales et des retards de paiement des utilisateurs. Ce qui est préoccupant, souligne la BBC, dans un pays d'11 millions d'habitants qui a accueilli 8 millions de touristes l'an dernier. Ces coupures de courant à répétition pourraient donc gêner un secteur économique crucial pour la République dominicaine.
Merci beaucoup Catherine Dutu.